Place Info.
Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Marc Fauvel.
C'est donc un ancien Chiracien, comme vous, qui vient d'être élu à la tête des Républicains, Christian Jacob. Vous lui souhaitez bonne chance ce matin.
D'abord, je le félicite pour son élection. Et puis, je souhaite qu'il remette de la cohérence dans le projet des Républicains. Moi, j'ai vu beaucoup d'incohérences depuis 2 ans et demi sur les questions économiques et les questions fiscales. Prenez les privatisations, où il y a une alliance avec la partie gauche de l'Assemblée pour lutter contre les privatisations. Prenez les baisses de dépenses publiques que nous proposons, que nous avons décidées avec Gérald Darmanin et qui n'ont pas été votées par les Républicains. Donc je souhaite qu'ils remettent de la cohérence, parce que c'est l'intérêt de notre démocratie d'avoir plusieurs projets qui se confrontent sereinement.
Vous souhaitez que la droite retrouve des couleurs électorales en France ?
Ce que je souhaite, c'est que la démocratie française soit vivante. Donc il y ait des projets cohérents qui puissent être débattus par les Français. Moi, je crois profondément dans le projet que nous portons avec le président de la République, mais j'ai jamais eu l'idée que nous avions la vérité révélée. Donc c'est toujours bien de pouvoir se confronter avec des projets, mais des projets qui soient cohérents. Et les Républicains, depuis 2 ans et demi, ont surtout apporté la preuve de leur incohérence économique et politique.
Renaud Dely.
Le budget va commencer à être examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est un budget qui est notamment marqué par un certain nombre de mesures qui ont été prises après la crise des Gilets jaunes. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que c'est un budget qui est plus marqué par cette crise-là, un budget plus jaune que marqué par l'urgence écologique, un budget plus jaune que vert finalement ?
Je ne sais pas si il faut donner des couleurs à un budget qui souvent est gris avant d'être coloré. En tout cas, c'est un budget qui a du sens. Il répond effectivement à cette crise des Gilets jaunes et à l'attente des Français de voir leur travail mieux rémunéré. Et je crois profondément dans la nécessité absolue que tous les Français qui travaillent soient mieux rémunérés. Et la baisse de l'impôt sur le revenu, elle s'inscrit dans la prolongation de l'augmentation de la prime d'activité, la défiscalisation des heures supplémentaires, tout ce qui permet à ceux qui travaillent de vivre dignement de leur travail. C'est un budget qui est vert aussi, parce que nous consacrons beaucoup d'argent à la prime à la conversion, à des dispositifs verts qui permettent d'accélérer la transition énergétique. Et puis, c'est un budget qui conserve la cohérence de la politique de l'offre, c'est-à-dire que nous amorçons une baisse de l'impôt sur les entreprises. L'impôt sur les sociétés va baisser pour toutes les entreprises en 2020. Donc nous restons dans cette ligne sur laquelle a été élu le président de la République, améliorer la situation des entreprises pour qu'elles puissent créer des emplois.
L'impôt sur le revenu va donc baisser de 5 milliards d'euros l'an prochain. Est-ce que les Français qui n'en payent pas sont les grands oubliés de ce budget ?
Les Français qui ne payent pas d'impôt sur leurs revenus, ils vont bénéficier de l'augmentation d'un certain nombre d'aides sociales. Ils vont bénéficier aussi de l'amélioration de la situation économique. Prenez le minimum vieillesse, il a été augmenté. Il n'y a pas que les Français qui travaillent qui vont être bénéficiaires. Mais je pense que c'est bon d'avoir en matière économique et budgétaire une ligne de force. Cette ligne de force, c'est le travail paye. Et je suis profondément convaincu qu'à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, il y a ce sentiment d'absence de reconnaissance pour le travail qu'on fait. Cette volonté de vivre dignement de son travail, de pouvoir partir en vacances, de pouvoir se payer des restaurants, aller au cinéma, faire vivre dignement sa famille, se déplacer librement, ne pas hésiter à emprunter sa voiture parce qu'on se dit que le plein d'essence va coûter trop cher. C'est à ça que nous voulons répondre.
Vous annoncez une baisse de l'impôt sur le revenu de l'ordre de 5 milliards d'euros. Et pour autant, quand on regarde, les recettes de cet impôt vont progresser. Elles vont progresser de 3 milliards. Grâce à quel tour de passe-passe ? Grâce à quel
miracle ? Il n'y a pas de passe-passe. Il n'y a pas de tour de magie. Ce n'est pas Gérard Majax au pouvoir, je vous rassure. Il y a deux raisons. La première, c'est que vous avez un taux de recouvrement de l'impôt sur le revenu qui est meilleur grâce au prélèvement à la source qu'a mis en œuvre Gérald Darmanin. Je crois que c'est un beau succès pour le ministère de l'Économie et des Finances et un beau succès personnel pour Gérald Darmanin.
Ça rapporte combien en plus à l'État, le prélèvement à la source ?
Ça donne un taux de prélèvement qui est de plus de 99%, c'est-à-dire que les 2 ou 3% que nous perdions, nous les récupérons pour les comptes de l'État, donc c'est une très bonne chose. Puis la deuxième bonne raison, c'est que les revenus des Français augmentent, et donc ceux qui payent l'impôt sur le revenu vont en payer plus, mais en part relative, en revanche, ils ne seront pas lésés.
Les Français payent, 80% des Français payent en ce moment pour la dernière fois la taxe d'habitation. Pour les 20% les plus riches, ce sera quand, pour être très précis ?
Ce sera 2013, vous ne paierez plus la taxe d'habitation.
2013, c'est passé.
2023, ouais, pardon, ouais. Vous ne paierez plus la taxe d'habitation.
Alors, on vous pose la question, Bruno Le Maire, parce qu'on a tenté de la poser à Jacqueline Gourault, votre collègue, il y a quelques semaines, qui était invitée à votre place. On n'a jamais compris la réponse. Je vous propose de réécouter ce qu'elle nous avait expliqué ici. Donc, sur la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% des Français les plus aisés.
2023. C'est-à-dire que progressivement, puisque c'est trois tiers, le dernier tiers sera payé en 2022.
Oui, 2022.
Sera supprimé, pardon. Le dernier tiers payé sera en 2022. Je reprends.
Allez-y.
Le dernier tiers supprimé sera en 2022.
Le dernier tiers sera payé en 2021.
22. Oui, 21. Supprimé en 2022. Voilà. Oh là là.
Bon, on peut tromper 100 fois un ministre de l'économie, mais on va vous reposer la question.
Le dernier plus de taxe d'habitation en 2023 sera intégralement supprimé pour tous les Français. Ce qui est un allègement d'impôts considérable et qui, je crois, correspond là aussi à notre volonté d'alléger les impôts pour tous les Français sur la durée du quinquennat.
2023, c'est dans le quinquennat suivant.
Quel problème est-ce que cela pose à partir du moment où c'est
voté? Il y a une élection présidentielle en 2022 avant, qui peut remettre en cause
chance,
les choix que vous faites aujourd'hui.
Bonne chance à la prochaine majorité, au prochain président de la République qui voudrait revenir sur la suppression de la taxe d'habitation. Bonne chance à une prochaine majorité si elle veut réaugmenter les impôts des Français. Je pense que le choix que nous faisons est un choix structurel. C'est celui qui inscrit la France dans une baisse d'impôts qui est durable et que je souhaite définitive.
Vous enclenchez, Bruno Le Maire, la privatisation de la Française des Jeux. Vous avez annoncé que les Français pourront commencer à souscrire des actions de la Française des Jeux à partir du 7 novembre. Combien cette privatisation va-t-elle rapporter ?
Alors ça, je ne préfère pas le dire parce que ça voudrait dire que je connaîtrais le prix de la Française des Jeux. Je donnerais une indication aux investisseurs qui, du coup, pourraient mettre leur offre en fonction de l'indication que
et
je
spéculer
donne.
Spéculer dans les jours qui viennent.
Les jours qui viennent. Donc je ne souhaite pas qu'il y ait la
moindre
spéculation.
Il y a une estimation de l'ordre de 1 milliard d'euros.
Eh bien, je redis que je ne veux pas fixer de limite à cette estimation, parce que je pense que la Française des Jeux marche bien, que c'est un très bel actif, que ça peut rapporter beaucoup à l'État, donc au désendettement et donc au financement de l'innovation, sans pour autant remettre aucunement en cause les recettes fiscales de la Française des Jeux. Ce que je vois qu'il y a parfois un peu de confusion. La Française des Jeux et les prélèvements sociaux et fiscaux qui sont faits sur les Jeux rapportent à peu près 3,5 milliards d'euros à l'État chaque année. Nous ne perdrons pas un centime d'euro de ces 3,5 milliards d'euros. Et nous entourons cette privatisation de toutes les garanties pour éviter qu'il y ait une addiction, notamment une addiction des jeunes qui se développent aux Jeux. C'est l'Autorité nationale des Jeux que nous avons créée. C'est le maintien de l'État au capital qui restera à hauteur de 20% dans le capital de la Française des Jeux. Nous faisons cette privatisation avec toutes les garanties contre l'addiction au jeu et pour les Français.
Alors, est-ce que c'est pour autant une bonne opération pour nous, contribuables? C'est la question qu'on va vous poser dans un instant. Bruno Le Maire, vous restez avec nous. Il est 9h20. Voici Mélanie Delaunay, et pas l'inverse, pour le rappel de l'actualité.
L'enquête sur l'attaque à la préfecture de police de Paris et ses interpellations. Ce matin, 5 personnes arrêtées dans l'entourage du tueur dans le Val-d'Oise, selon les informations de France Info. 700 000 litres de lait jetés chaque jour, explique sur France Info le président de la FNSEA pour la Normandie. La collecte de lait suspendue depuis l'incendie de l'usine Lubrizol va-t-elle pouvoir reprendre? Cela dépend des résultats que publie aujourd'hui l'Agence de sécurité sanitaire. La France veut la fin immédiate de l'offensive turque en Syrie. Emmanuel Macron s'inquiète des conséquences humanitaires et d'une résurgence de l'organisation État islamique. Selon les Kurdes, près de 800 femmes et enfants de djihadistes se sont enfuis d'un camp de réfugiés. Ce sont les forces kurdes qui les ont laissés sortir, affirme la Turquie. Les Bleus vont tenter de faire abstraction de géopolitique et du dispositif de sécurité. Les footballeurs tricolores affrontent la Turquie ce soir à 20h45 au Stade de France. En cas de victoire, ils seront qualifiés pour l'Euro 2020.
France Info. Et tout est plus clair.
Toujours avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Les Français qui le souhaitent vont donc pouvoir acheter des actions de la Française des Jeux à partir du 7 novembre prochain, dans moins d'un mois. L'État continuera à toucher les taxes à chaque fois qu'on achète un bulletin du loto, par exemple. Ce qui va baisser, en revanche, c'est la dividende versée par la Française des Jeux à l'État français. C'était environ 100 millions d'euros chaque année. Ça, on est d'accord que ça va bien baisser. Il y en aura beaucoup moins. 100 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un investissement perdant à long terme?
Je ne crois pas du tout. D'abord, ce que je pense que ça permettra la Française des Jeux de se développer, et donc vous aurez des recettes fiscales et sociales plus importantes. Puis ça va permettre surtout aux Français de pouvoir investir dans la Française des Jeux. Vous l'avez rappelé, moi je souhaite que ce soit une opération populaire, que les Français participent le plus largement possible à cette privatisation. Et j'ai proposé que les conditions de la privatisation, notamment pour l'autorité des marchés financiers, soient les plus généreuses possibles pour les Français.
C'est-à-dire, il y aura
une action gratuite. Ouais. Bah, il y aura une action gratuite pour 10 actions que vous aurez achetées, sous réserve que vous la gardiez 18 mois. Vous aurez une décote, c'est-à-dire un rabais de 2% sur chaque action que vous achetez pour les particuliers. Parce que moi, je souhaite que la Française des Jeux redevienne l'entreprise des Français. C'est ça aussi l'objectif de cette privatisation.
La dernière fois, Bruno Le Maire, qu'il y a eu une vaste privatisation populaire en France, c'était EDF. Et les Français qui ont acheté à l'époque des actions s'en mordent les doigts aujourd'hui.
La Française des Jeux, regardez la croissance qu'elle
a connue. Parce que le cours a été divisé de mémoire par 3 depuis la privatisation. Hein.
On peut dire que le marché des jeux, on peut le regretter aussi, est un peu plus stable que le marché d'électricité. Donc ça explique qu'effectivement, sur EDF, l'opération n'a pas toujours été favorable pour ceux qui ont investi. Les jeux, il y a 25 millions de Français qui jouent, qui participent au succès de ces jeux de tirage ou de grattage. La Française des Jeux se porte bien, elle a de vraies perspectives de développement. Donc nous allons permettre à la Française des Jeux de se développer. Nous allons le faire avec des garanties très fortes sur la lutte contre l'addiction aux jeux. Aujourd'hui, quand un jeune mineur va chez un buraliste et achète un jeu qu'il n'a pas le droit d'acheter, il n'y a pas de sanction. Demain, il y aura une sanction, une amende de 125 euros sur le buraliste qui distribuerait ce jeu. Et nous allons permettre aux Français d'acquérir des actions de la Française des Jeux à un tarif préférentiel.
On se souvient d'une autre privatisation qui était celle des autoroutes. À l'époque, d'ailleurs, vous étiez directeur de cabinet de Dominique de Villepin qui avait enclenché cette privatisation. Est-ce que vous avez tiré les leçons de l'échec de cette privatisation? L'État s'est privé d'une manne considérable d'une part, et d'autre part, on a vu les tarifs des autoroutes gonfler considérablement depuis cette privatisation.
Bien sûr, nous avons tiré les leçons. La première leçon, la leçon principale qu'il faut tirer, c'est que l'État doit garder la maîtrise sur les tarifs. En matière de privatisation des autoroutes, moi je pense que ça n'avait pas de sens que l'État reste propriétaire des autoroutes, il n'a pas les moyens de les entretenir correctement, de les développer. En revanche, il aurait dû garder le contrôle sur la fixation des tarifs. C'est ça que nous avons manqué. On en a tiré la leçon à la fois pour la Française des Jeux, avec des autorisations sur les jeux qui seront délivrés par l'Autorité nationale des jeux, et dans le cadre d'Aéroports de Paris, en prévoyant que les tarifs continueront à être fixés avec l'accord de l'État.
Vous voulez donc qu'il y ait le plus de Français possible qui achètent des actions? Vous allez le faire, vous? Vous avez le droit?
Je pense que je n'ai pas le droit. Je n'ai pas vérifié,
délit
mais je
peut-être.
Pense qu'il y a un sacré délit d'initié. Donc je ne me
livrerai
pas ça, mais
sinon
j'aimerais bien,
je serais
très heureux de pouvoir le faire. Regardez aujourd'hui ce que peut vous rapporter un livret A, regardez les niveaux des taux. Les Français cherchent des placements nouveaux. Ben, je pense que la Française des Jeux peut être un bon placement.
Les casinos, Bruno Le Maire, s'inquiètent, redoutent que la Française des Jeux profite de cette privatisation. Attendez, je vais quand même poser
ils
la
ont
question.
Tort de
vous allez répondre après, si vous voulez bien. Redoutent que la Française des Jeux installe des machines à sous, électroniques bien sûr, mais dans les bureaux de tabac où elle est présente aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez les rassurer?
Oui, je les rassure. Non, pardon, je vous ai coupé, mais comme j'attends cet argument depuis des mois, il n'y aura pas de machine à sous dans les bureaux de tabac. Je vais être très clair, les jeux...
Sous une forme ou sous une autre?
Les jeux qu'on appelle à aléa immédiat, vous voyez, j'ai enrichi mon vocabulaire avec cette opération de privatisation, ne seront pas autorisés pour les buralistes, ils resteront dans les casinos.
Vous avez évoqué une autre privatisation qui est actuellement gelée, c'est celle d'Aéroports de Paris. Elle est gelée parce qu'elle est soumise à un éventuel référendum d'initiative partagée. Il y a les partisans de ce RIP collectent en ce moment des signatures. Le dernier décompte est de l'ordre d'à peu près 865 000 signatures collectées aujourd'hui. Il en rend faux 4,5 millions d'ici la mi-mars. Mais lors du grand débat national, Emmanuel Macron avait évoqué la possibilité d'abaisser à 1 million le seuil nécessaire de signatures pour justement pouvoir organiser un référendum d'initiative partagée. Si jamais, sur ADP, les pétitionnaires sont 1 million, un peu plus d'un million, est-ce que vous seriez prêt à engager un référendum?
C'est pas moi qui déciderai d'un référendum. Ce que je sais, c'est que le référendum d'initiative partagée, tel qu'il a été déclenché sur ADP, a été déclenché avec des règles qui sont claires, c'est-à-dire plus de 4 millions de signatures pour qu'il y ait un référendum. Ce que je garantis, c'est que dans la durée de cette procédure, c'est le respect des institutions. Nous n'engagerons aucune décision sur Aéroports de Paris. Moi, je tiens juste à rappeler que, contrairement à ce que j'entends, il n'y a pas de privatisation des frontières, on garde le contrôle aux frontières, les terrains vont revenir à l'État et les tarifs aéroportuaires resteront fixés avec l'accord de l'État. On est très loin de la présentation un peu sauvage que l'on fait parfois
de
cette opération.
Donc c'est 4 700 000 signatures ou rien pour avoir un référendum.
En tout cas, c'est la règle institutionnelle telle qu'elle existe aujourd'hui.
Le groupe Michelin, Bruno Le Maire, a annoncé la fermeture de son usine de La Roche-sur-Yon, un peu plus de 600 emplois supprimés. Mais qu'est-ce que peut faire l'État?
L'État, il peut déjà s'assurer que les salariés ont tous un bon reclassement. C'est les demandes que j'ai faites à Michelin. Les salariés seront reçus par les autorités publiques très rapidement. Et puis surtout,
il doit traiter
le problème de fond. Le problème de fond, c'est que vous avez aujourd'hui des pneus chinois qui prennent des parts de marché de plus en plus importantes et qui sont moins chers. Ils sont moins chers à l'achat. Mais je suis pas sûr qu'il soit pas plus cher à l'usage et plus cher en matière environnementale, parce qu'ils s'usent plus rapidement et parce que leur impact environnemental pourrait être plus négatif. Donc j'ai demandé à la DGCCRF, la Direction Générale de la Consommation et de la Répression des Fraudes, d'enquêter sur ces pneus, de faire des comparaisons d'usure des pneus au bout de 6 mois, les pneus français Michelin et les pneus chinois, pour voir s'il ne faut pas changer la réglementation. Et pas simplement donner des autorisations au moment de l'achat du pneu, avec des spécificités au moment de l'achat du pneu, mais tenir compte aussi de l'usure pour que le consommateur et l'acheteur soient mieux informés et qu'on revalorise des pneus, les pneus Michelin, qui sont peut-être de meilleure qualité et plus respectueux de l'environnement.
Vous soupçonnez les pneus chinois d'être moins chers, ça ils le sont, il n'y a pas débat là-dessus, mais
non, on fixe une norme à l'achat. Mais ce qui compte, c'est pas l'achat. Un pneu, c'est quelque chose qui va durer des mois, voire des années. Donc c'est pas simplement à l'achat que je veux qu'on définisse les normes, mais qu'on tienne aussi compte des critères d'usage et d'impact environnemental. Ça n'est pas fait aujourd'hui dans les normes européennes. Je pense que ce serait intéressant que les normes européennes tiennent compte de l'usage et de l'impact environnemental.
Et des si pneus. Au final on se rend compte qu'effectivement les pneus made in China sont moins bons, qu'ils s'usent plus vite, qu'ils polluent davantage, qu'est-ce qu'on fera?
Eh bien, nous essaierons de faire adopter par l'Union européenne des normes qui mettront clairement les pneus européens et les pneus français devant d'autres pneus qui ne sont pas de la même qualité. Ça s'appelle défendre son industrie de manière loyale, en comparant pas uniquement la qualité du pneu à l'achat, mais aussi à l'usage.
Vous évoquez les normes européennes et le rôle de l'Union européenne. Justement, la candidate française à la Commission européenne, Sylvie Goulard, a été retoquée la semaine dernière par le Parlement, Emmanuel Macron, et la France cherche un candidat de substitution. Est-ce que, Bruno Le Maire, vous pourriez être ce candidat ?
Non, je ne suis pas candidat à la Commission européenne. C'est un poste qui est très important, avec 3 directions générales. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est la stabilité des ministres. Pour être un bon ministre, il faut durer. Il faut de l'expérience, il faut acquérir de la crédibilité. Et je pense que rien ne fait plus de tort à la France que le changement permanent des ministres.
Vous en avez parlé avec le président de la République ?
J'en ai parlé avec toutes les personnes avec qui je devais en parler. Et j'ai indiqué très clairement que ma préférence allait, comme je l'ai toujours dit, à rester ministre de l'Économie et des Finances.
Vous voyez, s'il n'y a pas d'accident de parcours d'ici à la fin du quinquennat, rester jusqu'en 2022 à Bercy ?
Je vous dis, je crois à la durée. Et après près de 15 ans maintenant d'expérience politique, je crois de plus en plus à la durée, à la stabilité, qui donne de l'expérience et qui donne de la crédibilité, notamment au niveau international.
On va parler dans quelques instants, Bruno Le Maire, si vous le voulez bien, des propos tenus hier par votre collègue du gouvernement, Jean-Michel Blanquer, sur le voile, qui, a dit le ministre, n'est pas souhaitable aujourd'hui en France. Vous nous direz si c'est votre position. Également, on abordera également la question de la taxe GAFA, décidée en France, mais qui pourrait être élargie à plusieurs dizaines de pays. D'abord, le rappel de l'actualité à 9h10, Mélanie Delaunay.
Son arrêté anti-pesticides va-t-il être annulé ? Le maire de Langouette, près de Rennes, devant le tribunal administratif ce matin. Son initiative d'interdire les épandages près des habitations a été suivie par plusieurs dizaines de maires. Une nouvelle étape dans l'enquête sur l'attaque à la préfecture de police de Paris. 5 personnes interpellées ce matin dans l'entourage du tueur dans le Val-d'Oise. Les adhérents ont fait le choix de la continuité. Réaction sur France Info de Julien Aubert, député du Vaucluse, arrivé 2e du scrutin. C'est Christian Jacob qui est élu président des Républicains. Le chef de file des députés LR rassemble 62,5% des voix. Le régime de Bachar el-Assad envoie des troupes dans le nord de la Syrie. Un accord conclu avec les Kurdes pour repousser l'offensive de la Turquie. Compromis douloureux, dit le haut commandement des forces kurdes. Les orages arrivent dans l'après-midi. 17 départements de l'Ouest et du Centre sont en vigilance orange à partir de 14h.
France Info. Et tout est plus clair.
Bruno Le Maire, un élu du Rassemblement National de Bourgogne-Franche-Comté, a créé un incident vendredi dernier parce qu'une mère accompagnatrice de sortie scolaire qui était dans le public, dans l'enceinte donc du Parlement régional, portait un voile. Votre collègue Jean-Michel Blanquer a été interrogé hier sur cette question. Voici précisément ce qu'il a dit.
La loi n'interdit pas cela. Par contre, en effet, on peut inciter localement à ce que ça ne soit pas le cas, notamment par le travail d'explication qui doit se passer, d'expliquer à une maman qu'on préfère qu'elle ne mette pas le voile dans une sortie, et parce que le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. C'est pas quelque chose à encourager, c'est pas quelque chose d'interdit, mais c'est pas non plus quelque chose à encourager.
Le voile n'est pas souhaitable dans notre société, c'est votre position aussi.
D'abord condamner le comportement de cet élu du Front National, parce que c'est un comportement qui est indigne. Prend pas partie une mère de famille dans une assemblée avec ses enfants, et en plus c'est complètement inefficace. En revanche, je partage la position qu'a exprimée Jean-Michel Blanquer. Je pense que le voile n'est effectivement pas souhaitable, ce n'est pas la société que nous souhaitons. Alors c'est autorisé pour les sorties à l'école, je le sais bien, c'est légal, mais ce n'est pas pour autant souhaitable. Il faut savoir quelle société nous voulons construire dans les années qui viennent. Quelle culture nous voulons défendre? Quelle culture nous voulons porter? Moi, je porte une culture de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je porte une culture de la liberté d'expression. Je porte une culture de la critique, y compris la critique des religions, si certains veulent critiquer les religions. Je porte une culture dans laquelle la religion reste dans la sphère intime, privée, et n'a pas sa place sur l'espace public. C'est la culture française, c'est la culture des Lumières, c'est la culture de notre histoire à laquelle je suis profondément attaché.
Et le voile n'est pas compatible avec cette culture ou cet héritage?
Je ne dis pas qu'il n'est pas compatible, je dis qu'il n'est pas souhaitable. Je reprends les termes de Jean-Michel Blanquer parce que je pense qu'ils sont justes. Je ne crois pas qu'il soit souhaitable que demain, dans la société française, les femmes soient voilées. Je ne crois pas que ce soit ce qu'on peut souhaiter pour la société française. On peut avoir un débat très serein là-dessus, mais qu'on aille au bout de ce débat. Quel type de société nous voulons? Moi, je veux une nation unie, sans communautarisme. Je veux une nation qui soit fidèle à notre culture de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je souhaite une nation dans laquelle les religions, la loi de la religion, ne l'emporte jamais, jamais, jamais sur la loi de la République.
Est-ce que vous
voilà
mettez
ma
sur
vision
le même
de la société.
Plan, Bruno Le Maire, un voile islamique par exemple, et le fait de porter une croix, ou est-ce que pour vous, le voile islamique, c'est un signe religieux à part?
Mais on peut débattre de tout cela, en débattre très sereinement. Moi, je ne veux pas m'engager sur le débat sur chaque sujet de détail. Je dis juste que
pour
chacun...
Pour dire les choses autrement, une kippa, par exemple, est-ce qu'elle est souhaitable ou pas en
que
France?
Que chacun, une fois encore, je ne veux pas m'engager sur ce débat en prenant point de détail par point de détail, parce qu'on aboutit à des positions caricaturales. Ce que je sais simplement, c'est que nous sommes à un moment où il y a une interrogation sur notre culture. Et que le vrai sujet qui est posé par cette question du voile, par l'égalité femmes-hommes, par la liberté d'expression, c'est quelle culture nous voulons défendre. Je crois qu'il est indispensable de réaffirmer avec calme et avec beaucoup de force notre culture nationale. Et cette culture nationale, une fois encore, c'est celle de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la laïcité, du refus de voir les religions empiéter sur l'espace public.
Bruno Le Maire, la Turquie poursuit son offensive contre les Kurdes. Emmanuel Macron a réuni hier soir un conseil restreint de défense. Il dénonce, le président de la République, une situation humaine insoutenable. Mais il y a en ce moment même des ressortissants français, des djihadistes français, qui sont détenus dans des camps gardés par des Kurdes. On évoque d'ailleurs la possibilité que plusieurs dizaines de djihadistes, et notamment de djihadistes occidentaux, se soient enfuis de ces camps. Est-ce qu'il faut que la France rapatrie ces djihadistes et leurs familles pour juger ces djihadistes en France, soit pour des raisons humanitaires, soit pour des raisons de sécurité?
Notre position a toujours été que les djihadistes devaient être jugés sur le territoire où ils se trouvaient. Et je ne crois pas qu'il y ait de changement de la position française là-dessus.
Il y a un changement de la situation.
Le changement de la situation est très grave, vous avez raison de le souligner. Il est extrêmement grave. Et c'est pas un changement conjoncturel. Il est grave parce qu'effectivement, ça pose un problème de sécurité, de risque de retour des djihadistes. Il est grave parce que ça pose la question de la résurgence de Daesh comme organisation terroriste à quelques milliers de kilomètres du territoire français, du territoire européen. Il est grave parce que ça pose la question de la pertinence de l'OTAN. La Turquie est membre de l'OTAN. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'une alliance dans laquelle un des alliés, la Turquie, prend des décisions qui sont objectivement contraires à nos intérêts fondamentaux de sécurité. Ça pose une question grave aussi sur le fonctionnement des alliances et sur les choix qui ont été faits en matière militaire et stratégique, par les États-Unis. Donc moi, je n'en tire qu'une seule conclusion. Il est temps que l'Union européenne, comme le président de la République le propose depuis maintenant plus de 2 ans, soit militairement la plus indépendante possible, parce qu'on voit bien à l'occasion de ce genre de situation qu'on peut pas compter sur grand monde.
Mais dans l'urgence, là, des dizaines de djihadistes peuvent potentiellement s'échapper, s'enfuir, éventuellement revenir en Europe, comme vous l'avez dit à l'instant. La France n'a pas de mesures de sécurité urgentes à prendre, notamment pour les rapatrier et les juger en France.
Il y a eu hier un conseil de sécurité et de défense autour du président de la République. Il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises, certaines qui sont secrètes, mais il est évident que le président de la République, l'ensemble des autorités concernées prennent toutes les décisions nécessaires pour garantir la sécurité des Français. Mais regardons, au-delà de cette question immédiate de sécurité qui est évidemment vitale, les conséquences que nous en tirons en matière stratégique. Je le redis, quelle est la pertinence de l'OTAN? Quelle est la pertinence aujourd'hui de nos alliances? Et il est urgent de renforcer encore notre défense européenne, comme nous avons renforcé notre défense nationale, pour faire face à n'importe quelle situation.
D'un mot, Bruno Le Maire, c'est la fin de ce rendez-vous. Comment vous qualifiez la position des États-Unis dans ce dossier ?
Incohérente, comme sur beaucoup de dossiers. Quand les États-Unis, dans le cas Boeing-Airbus, refusent d'aller vers un accord et nous imposent des sanctions, c'est incohérent. Quand les États-Unis décident de retirer leurs troupes de Syrie, avec le risque, là encore, de retrouver des déséquilibres dans la région, c'est incohérent. Et nous avons besoin aujourd'hui, c'était le début de notre interview, de beaucoup de cohérence et de stabilité. Plus le monde est instable, plus on voit des menaces qui se précisent, notamment la menace terroriste, plus il faut que nous fassions preuve de cohérence dans nos positions et de cohérence entre pays alliés. L'intérêt des États-Unis serait davantage d'avoir une bonne relation avec l'Europe du point de vue économique comme du point de vue stratégique, plutôt que de semer des inquiétudes par des décisions incohérentes.
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire était l'invité de France Info. Merci à vous.
Merci à vous. Merci.
Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info. Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis. Un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.